11h44, merci beaucoup pour les partages au texto 418-971-101, des histoires à n'en plus finir qui se sont passées aux urgences, des genre de 12, 13, 14 heures sans nécessairement rencontrer un médecin. Puis la dame dont je vous parlais tout à l'heure, 70 ans, plus de 70 ans, morte après 17 heures à l'urgence dans les toilettes. ACV, anévrisme au cerveau, c'est ce qu'on m'a dit. C'est d'une tristesse. Un autre auditeur qui me dit « T'es arrivé à même en faire un de mes chums. » S'en va à l'hôpital, trouve rien, retourne chez vous à la maison, prend de l'eau, un aspirine, ACV, même affaire.
Incroyable.
Ah, faut pas que ça arrive. Dans l'idéal, faudrait jamais que ça arrive. Hey, cela dit, on s'en va rejoindre le power forward de l'équipe de Boulevard 102.1. Son nom, c'est David Simard, de la ferme Simard. Salut, David!
Salut!
Es-tu top shape pour ce soir?
Ah, top shape, écoute, ça fait déjà un mois que je me prépare.
On me dit que tu avais été consulté les statistiques des joueurs du bout en feu.
Oui, bien, en fait, c'était une équipe que j'ai affrontée, moi, dans le passé, là, les bout en feu, donc c'est parfaitement mon calibre.
C'est pas sérieux, t'es allé voir des statistiques
ben
sur
oui,
eux, pour vrai?
On est
vous
êtes premier
ça au sérieux, puis David dit, j'ai commencé à m'entraîner, je veux dire, avec sa job, il s'entraîne chaque jour.
Max faisait des push-ups tantôt.
Le nom disait quelque chose, en fait, là, fait que je suis allé voir dans les archives, là, puis je les ai trouvés, les bouts en feu, dont on les connaît de fond en comble. Hein?
C'est ça. Puis est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller en particulier, ou c'est vraiment tous d'excellents joueurs qui auront une défaite très, très disgracieuse ce soir?
Je pense que c'est tous d'excellents joueurs de Ligue de garage, puis... Ils n'ont aucune chance contre l'équipe Boulevard.
Aucune. L'an passé, on avait gagné de peine et de misère, mais on avait tout un club contre nous. Et cette année, on a l'impression qu'on va être capable de répéter ce qu'on a fait l'an dernier. Hey, on parle avec toi de compensation pour les pertes agricoles. J'imagine que tu as vu l'article passer. Les sommes versées par l'assurance récolte de la financière agricole pour l'année 2023 sont les plus importantes depuis la création du programme en 1967. On parle de plus d'un milliard de dollars pour les agriculteurs. On parle d'années désastreuses. Est-ce que, toi, c'était quelque chose que tu connaissais dans le merveilleux monde de l'agriculture, cette assurance récolte-là?
C'est quelque chose, évidemment, qu'on connaît. Puis, au niveau, c'est le milliard de dollars, c'est vraiment au niveau de la financière agricole au complet. Fait que ça regroupe tous les services, incluant l'assurance récolte et les autres programmes. Et puis... C'est drôle. Quand j'entends puis quand je vois les chiffres du ministre, je me dis toujours que le ministre doit être le genre à mettre une paire de bas dans mon speedo là, quand il va à la plage pour que ça paraisse un petit peu mieux. Là, parce que, en fait, le milliard de dollars, ça inclut également là, la contribution des producteurs. Là, fait que la vraie compensation gouvernementale, c'est plus à la hauteur de 550 à 600 millions.
OK. Parce que ce qu'on dit, c'est que le contribuable là, dont on fait partie, puis dont tu fais partie toi aussi, on paye deux tiers de cette assurance-là, c'est ça?
C'est à peu près ça, là, la contribution gouvernementale. Là, on parle de l'assurance récolte. Fait que c'est 200 millions sur le milliard. Là. C'est vraiment deux choses différentes. L'assurance récolte, oui, ça a été une année record. À 200 millions, par contre, là, c'est vraiment... Ce sont des chiffres qui paraissent gros, qui frappent l'œil, puis le timing avec la sortie de ces chiffres-là, après une annonce d'un déficit, là, c'est sûr que ça frappe. Là.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie de cet argent-là qui était déjà dans la financière agricole, parce que c'est des programmes là qui sont budgétés et financés à chaque année. Et il y a beaucoup de ces programmes-là que ça fait plusieurs années que l'argent s'accumule dedans.
Hey, David,
on
te coupe 30 secondes. Je ne sais pas si tu bouges, parce que je sais que tu es bien actif, tu te préfères pour ce soir, mais on entend comme si tu étais dans un vaisseau spatial.
Comme si David était R2-D2.
Oui.
Je vais tenter de changer de place. Je vous entends vraiment, moi aussi. Là, je parle vraiment pas fort. Là. Je ne sais pas si c'est mieux ici.
Il n'y a pas de problème. On va,
au pire, on
te rappellera. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce milliard-là va servir à quoi, David? À qui va pouvoir avoir cet argent-là comme compensation? Est-ce que c'est les producteurs de porc, les producteurs acéricoles? C'est-tu les producteurs de foin?
Bien, évidemment, c'est un peu toutes ces réponses-là. Il y a une grosse partie du montant qui est accaparé par l'industrie porcine ces années-ci, là, avec la fermeture des portes là, de la Chine. Ça va très, 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 très mal dans l'industrie du porc. Il y a même un programme là, de d'abandon, si on veut, là, qui a été mis sur pied là, par la financière agricole pour essayer de faire baisser le nombre de producteurs de porc au Québec. Là, l'industrie va très mal. Donc, une grosse partie, peut-être le tiers de cet argent-là, c'est qu'il va à l'industrie porcine. Dans l'assurance récolte aussi, là, dans le 200 millions qui est mentionné dans l'article de la presse, là, il y a des secteurs là, où ce que c'est très rare là, qu'il y ait autant d'argent que ça, particulièrement en acériculture. L'an passé, ça a été un printemps désastreux. Donc, une grosse partie qui n'est pas là d'habitude, là, qui était là l'an passé, qui a été déclenchée par l'acériculture. Ça démontre une chose, ça va très, très mal en agriculture ces années-ci.
Ouais.
Puis, nous, ce qu'on dit, c'est que le milliard, c'est insuffisant, en fait. C'est en ce moment, c'est des chiffres qui sont avancés. Les détails sont pas nécessairement mis de l'avant. Ce qu'on dit, c'est que le milliard, ça a été le cas aussi en 2008, dans la crise de 2008. Donc, ce qui est très, très, très bizarre, c'est qu'on est le même montant qu'il y a 16 ans pour compenser une année qui était la pire en 50 ans. Là. Donc, on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, là, mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est nettement insuffisant.
Ouais, ben la majorité des gens qui ont été consultés dans l'article, qui sont agriculteurs, disent à peu près la même chose que toi, c'est qu'ils n'ont pas été compensés à la hauteur de leurs pertes. Sur quoi on se base pour dire que, quand on est agriculteur, pourquoi on se base pour dire que cette année, c'est une année où on a fait énormément de pertes? Puis comment le gouvernement s'assure que tous les agriculteurs disent la vérité?
Ben en fait, nos états financiers la disent la vérité. On est arrivé à perte. Moi, personnellement, c'est une centaine de mille dollars que j'ai perdu en 2023. Fait que c'est toujours plate de travailler pour perdre.
Ouais.
Puis la manière qu'on a en agriculture d'essuyer ces pertes-là, ben c'est de s'endetter, hein. C'est d'hypothéquer des parties de terre puis de s'endetter en plus. Puis pour essuyer ces pertes-là, pour espérer peut-être étendre cette perte-là sur plusieurs années. Selon Agriculture Canada, le revenu net en agriculture au Québec a baissé de 50 % entre 2022 et 2023. Puis on s'attend à ce qu'il baisse encore là, en 2024. Donc, passer d'à peu près pas loin d'un milliard au Québec en revenu net à 86 millions en deux ans, c'est une perte de proche 90 %. Donc, ce sont des statistiques, des chiffres qui sont basés sur des faits réels, qui sont basés sur des états financiers puis des chiffres qu'on déclare. Donc, c'est bien réel, c'est bien là.
Est-ce que tu as l'impression que 2024 va ressembler beaucoup à 2023? Est-ce qu'il va y avoir autant? Ben là, tu peux pas prédire qu'il va y avoir des inondations de champs, mais as-tu l'impression qu'avec tous les changements qu'on connaît dans les dernières années, ça va être encore pire?
Ça peut pas vraiment. Ça pourrait difficilement être pire. 24 que ça l'a été en 2023, évidemment. Mais dépendamment des secteurs, on a des impacts. On va avoir des impacts encore en 2024 des conditions qu'on a eues en 2023. Je vous donne un exemple. Les fraises, ça s'implante toujours un an d'avance. Les plantations 2023 ont été affectées. Ce sont des plantations qui vont produire en 2024 et en 2025. Donc, en 2024, on va encore traîner une perte en lien avec les pluies abondantes qu'on a eues l'an passé. Donc, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas une année extraordinaire, même si toutes les conditions sont rassemblées. Par contre, on peut espérer que ce soit mieux que l'an passé, c'est sûr et certain. Là.
Pour ce qui est du sirop d'érable, ça va être une bonne année ou une année normale?
Ah, ben là, pour nous, ici, dans la capitale nationale, c'est très bien parti. Là.
Ouais.
En fait, ça s'annonce pour être une saison record.
Wow!
Ça, c'est très positif. En fait, là, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien sur toute la ligne. Là. Ça part l'année du bon pied. Évidemment, c'est pas tous les producteurs agricoles là, qui ont la chance d'être en acériculture.
Non, mais moins au dos, David, il paraît que c'est des nuits aussi dans la cabane.
Oui, ben là, c'est vraiment aujourd'hui, je suis à la maison, là, ça fait à peu près un mois là, qu'on roule puis dans les rapides hivers, puis c'était jour et nuit. La semaine dernière, nous, la cabane roulait 22 heures sur 24 à tous les jours.
Fait que c'est motivant, c'est un peu épuisant, là, mais c'est... donc il y a quelques veuves de sucre ces temps-ci.
Est-ce que cette année, ça va être un peu plus difficile de faire venir des Mexicains ou des Guatémaltèques? Je sais qu'il y a eu le resserrement des règles dans les derniers mois, les dernières années. As-tu l'impression qu'on vous met un peu plus de bâtons dans les roues? Est-ce qu'on resserre les règles?
Oui, absolument. On met des bâtons des roues à plusieurs niveaux. Notamment là, les deux paliers de gouvernement qui rajoutent encore des étapes, de la paperasse, puis des portails informatiques auxquels il faut qu'on s'inscrive. L'autre chose aussi, il y a le salaire minimum qui augmente au mois de mai. Le salaire minimum augmente à 15 $, 75 $. Ce qui nous nuit à nous en ce moment, c'est qu'il y a un salaire plancher pour les travailleurs étrangers qui va être établi à 16 $ de l'heure. Donc on établit au Québec un salaire minimum, mais on n'aura pas le droit de le donner aux travailleurs étrangers. Il va falloir qu'on donne un petit peu plus encore. Donc, dans un gouvernement qui veut mettre l'effort sur l'inflation, puis cesser l'inflation alimentaire, c'est peut-être pas le move le plus intelligent qui aurait dû passer. On va continuer de vivre avec ça, là. C'est sûr et certain.
Est-ce que les chiffres sont bons? J'avais entendu qu'il y a de ça quelques années, ça coûtait autour de 600 $ faire venir quelqu'un et maintenant on est rendu autour de 6 000.
C'est sûr que ça peut varier beaucoup, là, dépendamment des industries, dépendamment aussi du temps que la personne, le travailleur passe. C'est sûr que ces coûts-là sont divisés sur le nombre d'heures un petit peu.
Okay.
Mais pour ma part, moi, ça coûte entre 1 500 et 2 000 $ par travailleur de faire venir des travailleurs. Ça, c'est à part, là. Ça, c'est juste l'apport via d'avion, paperasse, puis tout ça, là. C'est ensuite de ça, bon, il y a le salaire, il y a l'équipement qu'on doit leur fournir, il y a le logement qu'on doit leur fournir également. Donc c'est pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que faire venir des travailleurs étrangers, c'est une manière d'avoir un peu du cheap labor, comme on appelle. Mais c'est loin d'être ça, là. Des travailleurs étrangers, ça coûte à peu près le même prix qu'un Québécois. La différence, c'est que le samedi matin à 5 h du matin, ils sont là. C'est des gens qui veulent travailler, qui ont des familles à supporter, qui vivent des situations extrêmement difficiles dans leur pays, le Mexique, mais aussi le Guatemala. Donc, c'est des gens qui font beaucoup, beaucoup d'heures. C'est des main-d'œuvre très, très fiables. Puis, je vous garantis que on ne mange pas au Canada si on n'a pas l'apport de cette main-d'œuvre-là.
David, c'est toujours un plaisir de te jaser. Tu es toujours aussi pertinent. On se croise dans la chambre de hockey tantôt pour le match opposant Boulevard 101 au bout en feu. Tu es notre power forward. Hein? On a tous misé sur toi ce soir.
J'ai d'être à la grosse
heure. Allez, on a hâte d'avoir Hélo aussi, puis ton bébé.
Ben, à ce soir.
Salut, à ce soir.
Travaille tellement fort. Le midi. Ouais. Le midi. On part?